Le clochard sentit ses genoux fléchir dès qu'il entendit prononcer le nom de Granoulin. Un coup de dague en plein cœur n'aurait pu lui faire autant de mal. Il se contenta de répondre en élevant son regard amoureux vers celle qu'il examinait d'un air complaisant. « Pardonnez donc mon effronterie, mademoiselle, car fond d'aimer de nos péchés, il ne saurait vous ravir un noble seigneur si vous l'aimez autant que je vous aime. Je ne suis qu'un pauvre clochard, après tout. » Le héros dira, le plus triste de la terre, s'en retournant au presbytère, en se disant lui-même qu'il était vraiment sot, pour avoir osé parler à une si noble jeune femme, promise en plus à son pire ennemi. Il ne pouvait cependant oublier ce doux regard et ce sourire angélique. Le soir venu, Ramage ouvrit de nouveau la porte secrète de la sacristie, afin de conduire le héros et le curé du village auprès de son maître Rama. La salle du conseil se trouvait dans une vaste galerie qui se divisait en 12 grottes. La chapelle se trouvait au-dessus d'un ancien temple, dont l'origine remontait jusqu'à la nuit des temps. Selon une légende véhiculée par des paysans normands, ce coin de France aurait été habité jadis par des survivants d'un monde inconnu sur Terre. Ils auraient tenté de fraterniser avec des primitifs qui habitaient les collines de Normandie, mais ils furent finalement forcés de reculer jusqu'à un cours d'eau qu'ils appelaient Mehor. C'est près de cette rivière que les inconnus cachèrent des vases et des coffres fort anciens, remplis de parchemins et d'objets étranges. Puis, ces survivants disparurent sans laisser la moindre trace de leur civilisation, à part un petit temple qu'ils dressèrent au milieu d'une forêt encore vierge à l'époque. La seule statue dressée dans ce sanctuaire montrait une déesse tenant sur ses genoux un crâne noir. Cette relique en pierre rouge aurait été détruite ou volée par des barbares qui envahirent toute l'Europe dans les années 450 avant Jésus-Christ. Le temple inconnu cachait l'entrée des souterrains. Les bâtisseurs de la petite chapelle le savaient si bien qu'ils préférèrent éviter d'avoir des foules de curieux à cet endroit, en construisant justement une petite et humble église qui n'attirait aucun regard. D'ailleurs, cette chapelle se trouvait là, avant la construction du château et les maisons du bourg de Beauvrave. Péchel fut accueilli chaleureusement par le Grand Conseil des rats de France. Rama occupait la place la plus élevée dans cette grotte, dont les parois ressemblaient à des marches. On aurait dit un amphithéâtre grec aux gradins étagés. Des centaines de rongeurs étaient assis et discutaient des affreuses tyrannies des hommes envers leur peuple. L'un des rats tenait une coquille Saint-Jacques entre ses pattes et grattait celle-ci comme le faisait un minstrel ou un troubadour de l'époque. Le poète à fourrure, du nom de Ralland, chantait ainsi. « Si les rats se battent de leurs quatre pattes, les hommes les tapent de leurs bottes ingrates. Si le roi nous chasse, avec tant de faste, cette haine néfaste vaincra notre race. Pauvres rats, mes frères, nous perdrons la guerre si cet or de misère au puissant est offert. Mieux vaut être poussière et disparaître sous la terre, mais le roi ne fera pas la guerre avec cette rançon pour nos frères. » Péchel écoutait cette triste chanson du Ralland, en songeant justement au roi de France. Celui-ci se contenterait-il d'une part de trésor offert en plus par des rats? Qui pouvait être assez puissant pour défendre à coup d'or la cause des bêtes du diable, sinon le diable lui-même, se disait-il en réalisant le ridicule de sa mission? Est-ce que le roi serait assez naïf pour accepter le rachat d'une race méprisée par la majorité des humains? Il saurait sans doute jouer le jeu qui s'impose, en offrant une liberté illusoire aux rats, avant de rédiger d'autres décrets rachetables avec de l'or. Rama se tenait debout sur une pierre carrée placée au centre de la caverne et criait « Un peu de silence, mes amis, accueillons comme il se doit nos hôtes, en leur permettant de visiter nos souterrains. » Le maître venait de parler, et tous les rats du conseil se redressèrent en même temps sur leurs quatre pattes pour aussitôt se ranger derrière leur chef. Pêchel et le curé se firent conduire au bout d'une longue galerie éclairée par des lampes perpétuelles. On appelait ainsi flambeau magique ou lampe perpétuelle ces étranges néons inventés par les survivants de l'Atlantide. En réalité, ces luminaires ne provenaient d'aucune charge d'électricité, puisque cette énergie prenait sa source des courants magnétiques souterrains contenus dans l'air. Ainsi, ces lampes fantastiques appartenaient à ces rats intelligents. Tout comme Ramage, les centaines de rongeurs de ces souterrains savaient lire et écrire dans plusieurs langues. L'un d'eux en fit la preuve en lisant un bout de papier qui traînait sur le sol. Il s'agissait de cette missive envoyée au bon curé La Violette par demoiselle de Beaubrave. La lettre venait de tomber de la poche de ce pauvre distrait qui découvrit trop tard la perte de ce papier personnel. Plusieurs rats s'étaient déjà rassemblés autour de cette missive afin de la lire rapidement. Elle disait ainsi: « Cette lettre devrait en principe vous inviter, mon père, à bénir le mariage de Monsieur Monseigneur Granoulin et de Béchamel de Beaubrave. Mais à vous, je confesse, ne point aimer cet homme que mon père désire me présenter le jour même de notre mariage. Par amour de la justice, je vous implore d'empêcher cette cérémonie. » C'était signé « Une âme qui se meurt ». Ramage prit également connaissance de la lettre avant de s'exclamer d'une voix étonnée. « Oh, quel est ce papier sur le sol, mes amis ?»« C'est le mien, » s'empressa de répondre le gros curé en le ramassant d'un air embarrassé. « J'ai dû le perdre en sortant de la salle du conseil. » La visite des souterrains pouvait prendre plusieurs jours, puisqu'il passait même quelque part sous la Manche. Rama conduisit ses invités vers la grotte du trésor afin de satisfaire la curiosité de Pêchel. Une énorme pierre ronde en interdisait l'accès, mais le chef des rongeurs récita une étrange formule tout en frottant sa patte postérieure droite sur la roche argentée. « Pierre vivante de Pira, ouvre-toi, montre le trésor derrière toi. » Puis, lorsque la pierre bougea lentement, le rongeur surprit Pêchel en prononçant à trois reprises le mot « Arkara ». On aurait dit que celui-ci résonnait dans la tête du clochard comme le son d'une cloche d'un lointain passé. La pierre bouge, exclama le curé en souriant au pauvre homme qui cherchait à comprendre pourquoi le mot « Arkara » l'avait troublé au point d'émouvoir son âme. « Venez, Pêchel, lui dit Rama, pour le sortir de sa réflexion. » « Je vais vous faire voir notre trésor. » Une fumée blanche sortait des parois de cette grotte, et Rama rassura ses invités en leur disant ironiquement, « Ne vous inquiétez surtout pas de ce dragon qui dort dans une autre galerie. Sa fumée sort parfois de sa gueule lorsqu'il est nerveux. Mais puisqu'il nous connaît, vous ne risquez rien en examinant ce trésor qu'il protège contre les voleurs. » « Un dragon, vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas ?» demanda craintivement le clochard. « Peut-être bien, » lui répondit Ramage, en se tenant à ses côtés. « S'il y a un véritable dragon, tu le sauras si tu tentes de sortir d'ici en dérobant son trésor. » Le nuage se dissipa, et nos amis virent alors plusieurs statues d'or et pas moins de 7 coffres immenses alignés au centre de la caverne. Ramage acquiesça de la tête lorsque Pêchel voulut ouvrir le couvercle du premier coffre pour voir ce qu'il contenait. Des écus d'or, s'exclama le clochard en réalisant que ce coffre devait en contenir des milliers. Il y en a suffisamment pour acheter toutes les terres et châteaux de la France, monsieur le curé. C'est vraiment inutile de les compter, lui répondit le père La Violette, en se contentant de jeter un simple regard sur les pièces. « Regardons plutôt ce que contient l'autre coffre. »« Nous avons tout notre temps, » gémit Pêchel, en jouant à introduire ses mains dans cette mer d'écus. « Non, justement, » lui répondit l'autre, en lui refermant presque leur couvercle sur les doigts. « Demain, je dois me lever tôt pour dire la messe. » Les rats du conseil regardaient avec humour nos deux hommes s'attaquer au deuxième coffre, exactement comme des enfants pressés d'ouvrir leur cadeau de Noël. « Vous allez voir, messieurs, que les plus belles pièces d'argenterie au monde se trouvent enfermées dans ce coffre, » dit Rama, pour les exciter davantage. Un calice, une patène, deux burettes ornées de rubis, qu'ils sont beaux, Sainte-Mère de Dieu, s'exclama le curé. Regardez ces assiettes et ces ustensiles, mon père, ils valent sûrement une véritable fortune. Puis ces gobelets d'or, décorés de vignes de diamants, ont certainement appartenu à un roi assurément fort riche. Oui, c'est tout à fait probable, Pincel. Voyons à présent le troisième coffre. Mais nous avons à peine vu ce que celui-ci contient. Je le sais très bien. Mais ouvrons l'autre coffre. Les deux hommes furent tout d'abord fascinés par ce gros coffre sur roues en or massif. On aurait dit une grosse boîte musicale ornée de symboles énigmatiques sur son couvercle. Il fallut la force musculaire des deux curieux pour réussir à le soulever. « Mais ce coffre est vide, » s'écria Pêcheur étonné. « Il est vide par mesure de sécurité, » répondit Rama. « Celui-ci contenait plusieurs parchemins écrits par un maître atlante, ainsi qu'un fantastique miroir qu'il cacha au fond de ce coffre. Grâce au miroir de vérité, celui qui se regarde se voit tel qu'il est dans sa nature. « Comment s'appelait ce maître atlante ?» demanda Pêcheur d'une voix excitée. C'était un Aquilémon, un sage ermite, qui détenait une grande science et connaissance, hérité des grands maîtres de son ancienne planète. Vous voulez parler d'Arcara, n'est-ce pas? Demanda le clocheur en souriant. Peut-être bien, se contenta de répondre le chef des rongeurs. L'Atlantide est un mythe, dit évasivement le curé pour éviter de devoir admettre que la vie pouvait exister en dehors des quatre coins de la Terre. « Monsieur le curé, » dit Rama sans hésiter, « les Atlantes venaient d'un monde inconnu et donc mythique, comme vous le dites si bien. L'inconnu ne s'explique pas, n'est-ce pas? Vous avez devant vous un coffre atlante, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Même les lampes qui éclairent les souterrains sont des inventions de ce peuple étrange. Mon but n'est pas de vous convaincre, mais simplement de rappeler à Pêcheur de souvent regarder le ciel la nuit et de s'amuser à parler aux étoiles. » Pêcheur versa quelques larmes en écoutant les recommandations de Rama. Il lui dit d'une voix émue, « Ma mère adoptive me disait exactement la même chose lorsque nous observions le firmament. Assis sur ses genoux, je m'amusais à donner des noms à toutes les étoiles qu'elle pointait du doigt. Ensuite, elle me demandait sur quelle étoile j'aimerais vivre. Un soir, j'ai cru voir des petites mains d'enfants apparaître dans un coin du ciel. Je pense que c'était celle des anges qui m'invitaient à les suivre au paradis. J'en ai parlé à tante Antoinette, mais puisque j'étais encore très jeune, elle jugea préférable de me mettre en garde contre mon imagination. Les anges ne sont pas un mythe, dit le curé en souriant. Ce n'est pas comme l'Atlantide, ça. Peut-être bien, lui répondit Rama en laissant sortir des petits cris rieurs de sa gorge. Quoi qu'il en soit, il faudrait à présent songer à la rançon des rats. J'en ai discuté avec les membres du conseil, et nous jugeons préférable de ne rien offrir au roi qui s'en servirait pour augmenter son pouvoir. Donc, toutes les pièces d'or qui se trouvent dans le premier coffre, nous les offrons à notre protecteur. À moi, s'exclama Pêcheur d'une voix troublée. Oui, tu as défendu les rats de France, et c'est notre façon honorable de t'en remercier. Mais comment ferez-vous pour mettre un terme au massacre de vos frères? Lui demanda le gros curé encore plus troublé que son compagnon. J'ai déjà donné des instructions pour faire cesser ce génocide. Cela va se régler par les lois de la nature. Tous les rats du pays vont demeurer cachés le temps qu'il faudra aux hommes pour réaliser qu'ils ont fait une erreur en tentant de s'en débarrasser. Soyez patients et bientôt les autorités enverront quelqu'un pour vous supplier de retrouver les rats perdus. « Je le souhaite grandement, » répondit le curé en souriant. « Toutefois, je me demande si notre ami Pêcheur semble réaliser qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Europe. On dirait bien qu'il est triste, Sainte-Mère de Dieu. « Je pense que votre ami accepterait volontiers de perdre sa fortune pour obtenir le cœur de celle qu'il aime, » dit Rama à l'oreille du bon curé de campagne. Le lendemain à l'aube, le pauvre clochard s'aventura trop près du château du seigneur de Beaubrade, afin de surprendre, si possible, la belle Benchamel à sa fenêtre. Dame Estelle le vit lancer des petits cailloux dans la chambre de la demoiselle afin d'attirer son attention. Deux gardes sortirent du château et empoignèrent solidement le pauvre homme par les bras avant de le conduire devant le père de sa bien-aimée. Il était déjà debout à cette heure matinale, car il attendait avec anxiété l'arrivée du seigneur Granollet. Ce triste personnage craignait de voir sa fille le déshonorer en refusant d'épouser celui qui réclamait sa main en retour d'une vieille dette impayée. Péchel vit alors un grand homme assis au fond d'une salle richement décorée. Le seigneur de Beaubrave le fixait à travers son masque de fer. Cet homme avait honte de montrer son visage brûlé, comme on le sait, par un chaudron rempli de métal en ébullition. La voix métallique dit froidement à l'intrus. « La gouvernante de ma fille vient de m'informer qu'un étranger de mon village s'amusait à lancer des cailloux dans la chambre de Benchamel. Est-ce vrai ou faux, monsieur? »« C'est exact, monseigneur, mais assez. Je ne désire pas connaître vos raisons, mais simplement vous informer que le seigneur de Beaugrave ne tolère pas les étrangers, et encore moins ceux qui osent s'adresser à sa fille sans son autorisation. » Votre audace va vous valoir l'accord de monsieur dès que j'en aurai terminé avec le mariage de ma fille avec le noble seigneur Granollet. D'ailleurs, le voici qui arrive. Le seigneur Granollet fut tout aussi surpris que Péchel de la rencontrer dans ce château, mais sans plus de cérémonie, il sortit son épée en criant de colère. « Voilà mon voleur de chevaux, je vais te couper en deux, sale vermine. » Péchel ramena rapidement son pied dans la figure du fiancé avant de fuir dans le corridor. Les deux gardes se mirent aussitôt à sa poursuite. Les cris du seigneur de Beaubrave, appelant le reste de sa garde et ceux du fougueux Granollet, éveillèrent la demoiselle Benchamel. Elle ouvrit sa porte pour savoir ce qui se passait, et le pauvre clochard qui courait dans le corridor trouva tout à fait naturel d'aller se réfugier dans la chambre de celle qu'il aimait. Les gardiens s'arrêtèrent devant la châtelaine, qui leur cria aussitôt. « J'ai vu un homme traverser le corridor et prendre l'escalier qui conduit à la tour de garde. » C'est ainsi que Péchel échappa pour un moment à ses poursuivants. La jeune femme entra dans sa chambre et s'empressa de verrouiller la porte. Le pauvre fugitif s'agenouilla devant elle en disant d'une voix reconnaissante. « S'il faut que je meure, douce mademoiselle, j'aurai raison de dire que ma mort n'aura point été inutile. Jamais je n'aurais espéré me retrouver à vos pieds et sentir sur mes joues le subtil parfum de vos mains. Monsieur Péchel, aidez-moi, vous secourir, vous protéger, me battre pour vous. Je ne veux pas épouser le seigneur Granollet. Si vous m'aimez, ayez pitié de moi, monsieur. » « Pitié? N'est-ce pas votre pauvre Péchel qui, tel un chien affamé, réclame votre douce pitié, mademoiselle? Comment oserais-je même supposer que vous puissiez avoir besoin d'un pauvre homme qui vous aime en amour et de folie? Relevez-vous, monsieur, et embrassez-moi. Ce seigneur Granollet n'aura jamais obtenu mon premier baiser. » Péchel l'embrassa si tendrement que la demoiselle faillit s'évanouir dans ses bras. Il se peut qu'elle ait manqué de souffle après tout. Le clochard romantique lui dit ensuite, « Laisserez-vous la flamme de mon cœur mettre le feu dans ma pauvre personne, car je sens déjà l'odeur calcinée de mon ardeur dévorer à petit feu ces lèvres qui frissonnent. Seul un baiser de vous, ma bien-aimée, saurait calmer les affreux picotements sous mes pieds. Puis je croise mes orteils en supplicier, en espérant voir mon vœu le plus cher se réaliser. Je brûle en martyr sur le bûcher de mes désirs, mais je n'oserais prétendre que vous en preniez plaisir, puisque je vois briller une brindille de compassion sur ce visage que je qualifie de fort mignon. Ainsi, cette faiblesse pour vous est un mal révélateur que seul un mourant saurait éprouver à sa dernière heure. Il vaudrait mieux me soutenir avant que je meure et me déposer sur votre lit de plumes, ma douce fleur. Je vous assure que j'ai encore froid, et avant de prendre un rhume, enlacez-moi plus fort pour réchauffer mon infortune. Et je pourrai au moins mourir entre vos bras en plumes, tel un citron pressé et dénudé de sa fortune. Je suis votre chevalier, vous êtes ma belle, entre nous quoi de plus naturel? que d'obéir à Apollon, de qui je ressens l'appel. L'entendez-vous comme moi, ma douce béchamel? Vite, si le devoir nous incite à l'amour, laissons nos cœurs battre en tambour. Le romantisme de cette lumière du jour vaut bien cette lune qui chaperonne les troubadours. Je vous aime, et chacun de vos baisers me font renaître, encore quelques-uns, et c'est le paradis que vous ferez naître. » Ce fichu Péchel gagna ainsi le cœur de demoiselle Béchamel, mais pas pour très longtemps. Une main frappa violemment sur la porte, et une voix cria froidement, « Mademoiselle, ouvrez immédiatement, sans quoi j'en avertis aussitôt monsieur votre père. » « Fuyez, Péchel, fuyez mon amour, » gémit la pauvre femme apeurée. Le héros des rats de France pressa ses mains sur son cœur en disant, « Oh malheur, cette voix sans cœur de votre matrone, née sans doute pour vous priver d'avoir Vénus comme patronne, ne pourrait empêcher votre chevalier de venir vous libérer, même s'il me faut affronter toute une armée. Je reviendrai à temps pour empêcher ce mariage insensé. C'est toujours ainsi que cela se passe dans les contes de fées. Alors offrez-moi ce dernier baiser, ma bien-aimée, avant que Dame Estelle ne s'use les poings sur cette porte rouillée. » Ce sacré clochard se prenait vraiment pour un nouveau chevalier qui n'avait nul besoin de lire de romans d'amour pour se laisser aller à ses humeurs romantiques. Il sauta par la fenêtre dans quelques mètres d'eau et regagna rapidement la rive. Le curé, la Violette et deux enfants de cœur se préparaient à traverser le pont-levis du château, lorsque Péchel, caché sous celui-ci, cria, « Mon père, c'est moi, Péchel. » « Ben où êtes-vous donc, Sainte Mère de Dieu? » « Sous le pont-levis, les gardes du château sont à ma poursuite, mais ce n'est pas le plus important. Il faut à tout prix empêcher ce mariage. » « Je sais, Péchel, » lui répondit le gros curé en soupirant. « Mais comment puis-je l'empêcher à présent qu'on m'attend déjà pour le célébrer? »« Tout ce que je vous demande, mon père, c'est de le retarder de quelques heures. Vous pourriez juger de parler au futur époux, afin de savoir s'il est bon chrétien ou s'il est digne d'épouser une sainte Béchamel. Posez des questions, plusieurs questions, afin de me laisser le temps d'organiser mon armée. Nous allons libérer ma bien-aimée. » « Des questions, des questions. Je vais faire ce que je peux, Péchel. Mais je ne suis pas le directeur de conscience de ce seigneur Granolin, pour qui vous légifiez avec une âme corrompudique, moi. » Le cochon ne répondit pas à cette remarque, puisqu'il nageait déjà sous l'eau afin d'éviter, si possible, d'être vu par les gardes. Le bon curé ramena alors une chiffe affectueuse derrière la tête de l'un des enfants de cœur en lui disant, « N'oublie pas de t'évanouir, mon petit, lorsque je demanderai au seigneur Granolin s'il désire prendre comme épouse demoiselle de Beaubrave. Puis toi, Stéphane, il faudra échapper le plateau qui contient les alliances. Il faut gagner du temps, mes enfants. » Le père La Violette s'engagea le premier sur le pont-levis, suivi par ses enfants de cœur qui riaient de voir un garde s'approcher. Il tenta de passer en même temps que le gros curé, venant dans l'autre sens, mais rien à faire. Même en tentant de se tasser le ventre pour le laisser passer, le religieux ne parvint qu'à écraser le pauvre homme sur une rampe normalement assez solide. Elle céda brusquement et le garde alla faire une petite baignade forcée dans le fossé. Péchel se faufila discrètement jusqu'au presbytère. Ramage rassembla à sa demande tous les rats du village afin de les préparer à l'attaque surprise du château. Brutus et Arthur devaient demeurer dans l'écurie jusqu'au moment de l'assaut. Cette attaque allait devoir se préparer dans le plus grand secret, puisque les 30 hommes du seigneur Granolin circulaient dans ce bourg, à la recherche du cachard. Avec les 40 soldats du château, cela faisait 70 ennemis à combattre. Fontaine de Melampéchel se sentait prêt à affronter même les pires dragons du monde entier, pour obtenir la libération de sa belle Béchamel. Il se fit un plan de combat afin d'éviter de perdre cette guerre historique. Les rats de Cal verraient à couper les câbles du pont-levis dans le cas où celui-ci serait levé au moment de l'attaque. Les rats noirs attaqueraient de nuit si ce conflit devait se poursuivre au-delà du coucher du soleil. Les rats de la ville de Rouen formeraient le gros de la troupe et attaqueraient le château par le nord, le sud et l'ouest. Brutus foncerait comme en avant toutes, dès que le pont-levis serait descendu. La lourde porte d'arche du château ne pourrait résister à l'assaut de cette bête enragée. Des rongeurs, d'ailleurs, avaient déjà comme mission de teindre celle-ci en rouge. Le héros des rats de France trouva une armure, un bouclier et enfin un véritable attirail de chevalier en se rendant discrètement chez le forgeron du village. Le vieil homme cracha sur un haubert pour ensuite l'expliquer en disant « Tous les villageois sont de votre côté, monseigneur Péchel. Il est temps pour nous de mettre un terme à la tyrannie de notre mauvais maître de Beaubrave. Nous prendrons toutes nos fourches, nos bêches et nos haches afin de vous suivre dans cette croisade. » « N'est-ce pas au nom de Dieu que vous combattez les hommes qui détruisent ces créatures ?»« Mon pauvre homme, lui répondit Péchel d'une voix émue, je ne suis qu'un simple clochard indigne de mériter ce noble titre de seigneur. Vous êtes le seigneur des petites bêtes du bon Dieu. Avec cette armure, vous aurez fière allure. Elle appartenait à mon fils, Guillaume de la Berge, chevalier de la grande confrérie des Templiers. Il est mort à Jérusalem comme un vrai chrétien. » « Je suis vraiment honoré, monsieur, de porter l'armure d'un aussi illustre chevalier. » Au signal donné par les pauvres cloches de Sainte-Marie-des-Puits, des milliers de rats entourèrent le château. Un garde effrayé cria aussitôt « Remontez vite le pont-levis !» Des soldats couraient dans toutes les directions afin de s'emparer de leurs lances, de leurs arcs et de leurs flèches. Tous les villageois criaient en marchant en direction du château « Mort à Beaubrave !» Vive Péchel! Dans la petite chapelle du château, le curé avait utilisé tous les moyens inimaginables pour retarder le mariage. Lorsqu'il prononça « Prenez-vous comme épouse », le servant de messe se distrait oublia de s'évanouir. Alors le gros curé le fixa d'un air sévère en lui disant dans un latin improvisé pour les circonstances « Fautim homme, mettra mon pied des russes dans tes foufounas ?» Porter Apollum de Tombus, de Vanus Marius, Crétano. Ce qui voulait dire, faut-il mettre mon pied dans tes foufounes pour te rappeler de t'évanouir devant les mariés, crétin? Heureusement, l'enfant fit semblant de s'évanouir devant le seigneur Granolin. Celui-ci s'écria d'une voix désespérée. Mais allez-vous donc vous décider à le bénir, ce mariage, mon père? J'aurais donc dû choisir moi-même quelqu'un de plus vite dans la matière. Mon fils, répondit le curé en joignant les mains, j'ai bien l'impression que vous devrez apprendre à patienter encore longtemps. En effet, les cris de la foule vinrent mettre un terme à la cérémonie et ce, au grand soulagement du curé et de la future mariée. Elle se jeta dans ses bras pendant que les seigneurs de Beaubrave et Granolin s'empressèrent de regarder par la fenêtre. « Mais c'est la révolution, ma parole !» s'écria le châtelain, effrayé par les cris injurieux des villageois. « Vos gardes ont déjà été mordus par des rats, mon cher Beaubrave, » lui demanda l'autre homme en train de lui faire sa révérence. « Je ne tiens pas du tout à me trouver encore une fois en face de ces maudites bêtes de malheur. » « Vous fuyez, espèce de lâche !» répliqua le père de Béchamel en tentant de lui retenir le bras. « Oh, traitez-moi de tous les noms qu'il vous plaira, mon cher ami, car ces rats ne sont pas 10 contre 1, mais des centaines. Ils obéissent sans doute à ce fou dangereux que vous deviez pendre, n'est-ce pas? Moi, je me bats contre des hommes, et non contre des vermines capables de nous grignoter. Alors, pardonnez-moi de vous fausser compagnie, puisque je ne tiens pas du tout à mourir en martyr. » Le seigneur Granolin quitta la chapelle sans même prendre le temps d'embrasser sa fiancée. Le père de celle-ci vit alors un chevalier qui se tenait fièrement sur un cheval dressé. Il attendait non loin du château en compagnie de 20 cavaliers armés de fourches, de bêches et de haches. Ceux-ci montaient les chevaux de Péchel. Des rats mirent des petits radeaux dans le fossé afin de pouvoir le traverser sans se mouiller. Raffio et Ramoneur furent cependant blessés par une volée de flèches ennemies. L'embarcation de radeaux et celle de centaines de rongeurs gris furent bientôt de l'autre côté. Plusieurs rats chutèrent à l'eau en tentant de grimper sur les pierres du château et d'autres se firent décapiter en arrivant sur les créneaux. Par contre, plusieurs bêtes coupèrent les câbles du pont-levis. Elle retomba lourdement au joyeux cri des envahisseurs. Il faut solidifier la grande porte, cria nerveusement le seigneur de Beaubrave. Pendant que des soldats plaçaient d'énormes poutres en travers de la porte, des rats la peinturaient rapidement de l'autre côté en se servant d'un genre de petit plumeau fixé au bout de leur queue. Brutus se chargea dès que Péchel lui cria « Mon ami, va défoncer cette grosse porte qui t'agace par sa couleur provocante. » Le taureau gratta le sol en mugissant et fonça à toute allure sur la porte. Le chevalier et les autres cavaliers levèrent leurs armes vers le ciel avant de s'élancer à l'attaque du château. Des milliers de rats et tous les villageois suivirent le héros. Les gardes fuirent en voyant Brutus s'introduire dans la cour en transportant la lourde porte au bout de ses cornes. La bête noire en profita pour tasser quelques soldats entre un mur et sa porte rouge. Péchel entra en trombe dans la cour du vieux palais et tel chevalier sans tort et sans reproche cria au seigneur de Beaubrave « Rendez-vous en conservant les honneurs ou acceptez de fuir sans bonheur, car moi, l'amoureux de votre fille, mon seigneur, vous réclame sa main, puisque j'ai obtenu son cœur. » « Jamais! Salvaurien, poltron, imposteur !» lui cria le châtelain. « Allons les rats, à l'attaque !» cria sans attendre le chevalier sans nom. Le seigneur de Beaubrave vit alors des milliers de rongeurs s'engager dans les escaliers de la cour, sur les toits, dans les corridors et même dans le vaste jardin du château. Il y en avait partout, autour des soldats, qui devaient d'ailleurs se battre contre eux, contre les paysans, contre le taureau et enfin contre ce fier chevalier armé d'une grosse masse de forgerons. Les casques ennemis ne pouvaient résister à la main solide de cet ancien maréchal ferrant. Le combat était déjà à son plus fort lorsqu'un géant vint s'appuyer ses bras sur les créneaux du château. Une main énorme s'empara d'un soldat et une voix caverneuse dit ainsi « Moi, j'ai une idée fort après la mort, va prendre-toi par grosse main à moi et dépose-toi dans gros tas d'eau. » Plouc! Le garde fut soulevé rapidement par le chignon du cou et se retrouva aussi vite par-dessus les murs du château. Le spectre lumineux se saisissait des ennemis de Péchel sans se presser, tandis que le chien Boulette marchait allègrement sur les remparts en criant à son ancien maître, vraiment ému de le revoir. « Bonjour, mon ami et mon maître. Voici mon grand copain génie des forts après la mort. Il va mettre un terme à ce combat, car je dois partir à présent vers le paradis des chiens perdus, où j'attendrai que tu viennes me chercher à la fin de ta vie. En attendant, j'espère que tu trouveras d'autres chiens fidèles comme moi pour te tenir compagnie. Il n'est pas bon que tu pleures ma mort plus longtemps. » « Oui, Boulette, je crois que tu es heureux et que mes pleurs sont inutiles. J'aurai volontiers d'autres chiens que j'aimerai pour eux au cours de ma vie. » « J'ai bien l'impression qu'elle sera très longue, » lui répondit l'esprit animal, avant de disparaître assis dans la main du géant. Le combat était terminé. Tous les soldats apeurés par l'étrange allié de leurs ennemis se rendirent sans condition. Le seigneur de Beaubrave demeurait à sa fenêtre en fixant gravement son ennemi à présent dans les bras de sa bien-aimée. Il baissa les yeux et s'en retourna dans ses appartements. Les rats jugèrent inutile d'attaquer un homme qui se sentait déjà mourir de honte. Il venait de perdre le plus précieux de tous ses trésors, entre les bras d'un clochard de Paris. La foule criait « Vive Fontaine Dunlop Péchel !»« Longue vie à notre héros !» ajoutaient les rats, en se rassemblant autour de lui. Demoiselle Béchamel supplia alors son amoureux d'avoir pitié de son père. Péchel lui répondit en souriant « Mais comment pourrais-je me venger d'un homme qui sera bientôt mon beau-père? Puis-je espérer que vous daignerez m'accepter comme époux si votre père m'accorde votre main? Je vous épouserai, Péchel, mais mon père va vous refuser ma main. » Alors le bon curé, la Violette, bénira notre mariage en secret, ma bien-aimée. Le seigneur de Beaubrave vit Péchel au bout d'un champ, en train de creuser des fosses pour les pauvres rats ayant succombé au cours de cette bataille historique. Tous les villageois l'aidaient dans ce travail, ainsi que tous les autres rats. le chat, poil long, creusa un petit trou de sa patte afin d'y enterrer lui-même son ami Ramolli. Ce vieux rongeur avait tenu à prendre part au combat, mais succomba à une crise cardiaque. Ses confrères rabougris, rachitisme, ralenti et enfin raccourci, lui firent un dernier adieu en jetant dans sa tombe un morceau de pain offert par un villageois, un morceau de fromage du curé Laviolette et un poisson offert par Poil Long. Les enfants enterrèrent les dépouilles des autres rongeurs après les avoir déposées dans des petits paniers. Le château était désert. Personne ne travaillait dans les champs du châtelain depuis plusieurs jours. Mais, contrairement à ses habitudes, le seigneur de Beaubrave ne se sentait plus d'humeur à battre quelqu'un. Il est vrai qu'il ne possédait plus de soldats pour faire appliquer ses lois. Pensant à tous ces événements, cet homme sombra dans une mélancolie indescriptible. Il passait ses journées entières à regarder sa fille rire et chanter en compagnie des pauvres gens du village qui venaient de s'emparer de la fromagerie. Les rats poussaient les meules de fromage en bas des tablettes et les villageois les attrapaient en jubilant de joie. C'était la fête pour tous, sauf pour le seigneur solitaire. Des semaines passèrent et Péchel vit un matin un représentant de la cour royale se présenter au presbytère afin de négocier le retour des rats, comme l'avait prédit Rama. En effet, depuis que les rats de cachot avaient disparu des prisons, le taux de criminalité avait doublé. Les prisonniers s'entassaient dans les cellules en se moquant de leur détention. Plus un seul rongeur pour leur faire craindre la noirceur des cachots, ou encore pour leur disputer une miche de pain sec, ou pire encore, pour les mordre cruellement pendant leur sommeil. Par conséquent, c'était devenu un vrai charme de loger dans les prisons de France. Le représentant du roi qui vint discuter avec Péchel et M. le curé exprima ainsi son désarroi. Le problème des prisons est grave, mais nous avons à plus de bonnes sources que des milliers de commerçants vendent leurs boutiques pour se lancer dans le commerce lucratif de l'extermination de rats. Notre économie va en prendre un sale coup, M. Péchel, si ce génocide se poursuit encore un certain temps. Comme les rats se font rares, leur valeur marchande se chiffre déjà à 2 écus d'or. C'est une véritable chasse aux peaux de ces hideuses bêtes qui vient de débuter. Même mon épouse me supplie de lui acheter un collet de rat d'égout. N'est-ce pas horrible et ridicule comme situation? Puis, la peste sévit dans d'autres coins du pays, sans qu'on y découvre la présence d'un seul rat. Lorsque ces rongeurs venaient mourir devant nos maisons, nous savions que la peste était à notre porte. Mais là, sans nos indicateurs, comment saurons-nous, monsieur, s'il y a un danger pour nous? Et que proposez-vous comme solution, monsieur? Demanda le curé d'une voix amusée. Nous voulons revoir nos rats, mon père. Le roi est disposé à offrir un écu d'or par rongeur que vous ramènerez dans les prisons de nos villes. Si vous pouvez en trouver davantage, nous pourrons les établir dans les villages. Votre cause nous touche profondément, vous savez, lui répondit Péchel qui riait dans sa barbe. Mais croyez-vous que des rats voudront s'en retourner à Rouen, par exemple? N'est-ce pas là que des milliers de ces rongeurs furent brûlés vifs, monsieur? Je dois avouer que nous le déplorons, monsieur Péchel. Toutefois, nous sommes disposés à léguer 2000 acres de terre aux rats qui voudront s'établir autour de Rouen. Nous passerons même un décret pour en interdire la chasse, si cela peut vous rassurer. Mais pourquoi vous adressez à moi pour retrouver vos rats de France, monsieur? C'est le seigneur Granoulin qui affirme que vous êtes un défenseur de ces rongeurs, monsieur Péchel. Si cela est véridique, je pense m'être adressé à la bonne personne, n'est-ce pas? D'accord. Je veux vous aider dans la mesure où mes amis voudront bien se plier aux demandes du roi. Ils ont peur, vous en conviendrez sans peine, depuis cette tentative de génocide. Par contre, il se peut fort bien que si le roi décide de faire escorter les 2000 rats que je propose, de renvoyer à Rouen. Monsieur Péchel, si vous disposez d'autant de rats, il est évident que je verrai personnellement les faire escorter par 200 soldats. Il se peut que les rongeurs hésitent encore, à moins qu'il s'agisse de la garde privée du roi. Alors, oui, bien sûr, il est évident que mes amis accepteront d'aller s'établir à Rouen. La garde privée de Sa Majesté, n'y songez pas, M. Péchel. Eh bien, je ne peux donc rien vous promettre si le roi lui-même refuse de veiller personnellement à la protection des rats. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire, M. Péchel. Après le départ de l'émissaire, les deux hommes passèrent un long moment à se tordre de rire. Puis, le curé fit rassembler tous les rats de Rouen derrière l'église de Sainte-Marie-des-Puits, et Péchel les informa de la situation en disant « Vous pourrez retourner bientôt à Rouen, mes amis, avec la bénédiction du roi lui-même. Vous obtiendrez un vaste champ pour vous y établir en toute quiétude. » Le roi a donc accepté de l'ordre, notre héros, lui cria scélérat qui s'était mêlé à la foule de réfugiés. « Non, mon ami, s'empressa de lui répondre Péchel en riant. Aucune pièce d'or n'aura été nécessaire pour convaincre le roi de votre nécessité. Par contre, je n'ai pas l'intention de laisser les rats mordre les gens dans les cachots. Leur simple présence suffira à décourager ceux qui détesteront voir des rongeurs partager leur repas, leurs dessous de couchette ou encore un coin de couverture. » Je vous expliquerai plus tard pourquoi le roi tient tant à vous réhabiliter en France. Pour le moment, il faut éviter à tout prix de vous promener sur les routes infestées de chasseurs de primes.